الحمد لله الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك السلام القدوس والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فخاركم وسعادتكم في الدنيا وأخرى فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأحبتي في الله نواصل بعون الله عز وجل قراءة هذا الكتاب المبارك وهو شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شرح فضيلة الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله ووصلنا إلى فضل الصحابة و موقف أهل سنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم خلنا نعيم تفضل
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل
الحديبية
وهو صلح الحديبية
بدون تشديد نعم.
وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمانا وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على ثم علي
أحسن تبارك الله فيك العزيز الحمد لله كي اسكا لا تخدكسون إن شاء الله خير شبا أولا تخدكسون استقلي لطنك شلا ليز يشتغل لليفر إن شاء الله نعم Donc il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ce chapitre, il dit, ils acceptent, yani ahl sunnah, jama'a, ils acceptent ce qu'affirme le Coran, la sunnah et le consensus concernant leur mérite et leur rang. Ils reconnaissent que ceux qui ont dépensé avant la victoire, al-fath, c'est-à-dire le pacte de al-Hudaybiyah, et qui ont combattu ont un mérite plus grand que ceux qui ont dépensé par la suite et ont combattu. Ils préfèrent les émigrés, al-muhajiroun, aux auxiliaires, les ansar. Et ils croient fermement qu'Allah Jalla wa Ala a dit à ceux qui ont participé à la bataille de Badr, qui étaient un peu plus de 310, faites ce que vous voudrez car je vous ai pardonné. Et croient que personne d'entre ceux qui ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre n'entrera en enfer. Conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam et même plus qu'Allah les a réellement agréés et qu'eux-mêmes l'ont agréé. Ils étaient alors plus de 1400. Ils attestent le paradis à ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attesté, comme les 10, Thabit ibn Qais, ibn Shammas et d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Ils reconnaissent ce qui a été rapporté par des textes transmis de façon successive et sûre, tawatur, et remontant au commandeur des croyants, Ali, fils de Abi Talib, et à d'autres, disant que les meilleurs de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr, puis Omar, plaçant Uthman en troisième position et Ali en quatrième position, et ce conformément à ce qu'indiquent les traditions et conformément au consensus unanime des compagnons autour du fait que Uthman doit précéder dans l'accession au califat. Cependant, certains des gens de la Sunna, bien qu'unanimes, a accordé la primauté de Abi ou la primauté à Abu Bakr et Omar, avaient divergé à propos de Uthman et Ali radiyallahu anhum quant à savoir lequel des deux était le meilleur. Certains ont fait passer Uthman avant Ali, se turent puis mirent Ali en quatrième position. D'autres gens ont fait passer Ali avant, d'autres encore se sont abstenus de se prononcer. Finalement, la position des gens de la Sunna est de faire passer Uthman avant Ali radiyallahu anhum. طيب. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة تفاضل صحابة بعد أن بين فيما سبق فضلهم عموما وموقف أهل سنة والجماعة من ذلك فقوله رحمه الله ويقبلون أي أهل السنة والجماعة يقبلون يقبلون ماذا ما جاء به أو ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع أي إجماع المسلمين من فضائلهم ومن مراتبهم وكفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدا على فضلهم. Donc dit le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans ce paragraphe, il a exposé la différenciation des compagnons les uns vis-à-vis des autres. Yani, certains compagnons ont plus de mérite que d'autres compagnons. Ils n'ont pas tous au même degré et n'ont pas tous la même valeur عند الله سبحانه وتعالى. Donc au chapitre précédent on a vu le mérite des sahaba de manière générale. Tous les sahaba ont ce mérite et sont supérieurs à ceux qui sont venus après eux, mais parmi les sahaba, au sein même des sahaba, on a certains qui ont plus de mérite et plus de valeur que d'autres. Et il a exposé ici, donc, Cheikh al-Islam, la position des gens de la Sunna et du groupe sur la vérité vis-à-vis de cette différenciation entre as-sahaba. Il dit donc, wa yaqbalun, et ils acceptent. Qui ils? De qui parle-t-il ici, les frères? Ahl Sunna. Il parle des adeptes de la Sunna et ceux qui font partie du groupe sur la vérité, al-jama'a. Ils acceptent. Qu'est-ce qu'ils acceptent? Ce qui a été rapporté dans le livre d'Allah, dans la sunna authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce qu'on appelle al-ijma', le consensus. C'est-à-dire le consensus des musulmans. Ils acceptent ce qu'il y a dans ces trois masadir, ces trois sources de tashri', de législation, et desquels nous tirons notre croyance. Et parmi cette croyance-là, eh bien, le mérite des sahaba et le degré des sahaba, les uns et les autres. Et ces trois sources-là suffisent largement comme témoins et comme preuve de la valeur des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit le consensus des musulmans, ça veut dire quoi, les frères? Ça veut dire quoi, al-ijma'? Ijma' al-muslimin. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend souvent, c'est le consensus. unanime des musulmans. Et on sait que l'ijma', c'est la troisième source de législation. Après le Coran, après la sunna, on a l'ijma'. Taïeb. Donc de quoi on parle exactement ici? L'ijma'. إجماع ما معنى إجماع أولا؟
اتفاق.
نعم أحسنت. الاتفاق. الإجماع لغة هو الاتفاق والعزم كذلك في اللغة. Dans la langue arabe, الإجماع c'est l'entente, l'accord. D'accord? الاتفاق, le fait de se mettre d'accord les uns avec les autres. Ça, c'est dans la langue arabe. C'est aussi la résolution, la détermination, l'azm. Lakin fi al-istilah huwa ittifaq mujtahidi hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hukm shar'i. هذا التعريف ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ومن أفضل التعريفات. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. Donc l'une des meilleures définitions, la plus précise, la plus complète de l'إجماع, celle qu'a donné le شيخ العثيمين رحمه الله تعالى. Il a dit, c'est le consensus, l'ittifaq des mujtahidin de la communauté. Donc les mujtahidin, ce sont les gens de science qui ont atteint un degré qui font qu'ils peuvent faire un ijtihad, un effort de réflexion d'eux-mêmes. Ils ont atteint un degré de science qu'ils peuvent se permettre de faire un ijtihad, un effort de compréhension à travers les textes du Coran et de la Sunna. Donc c'est pas n'importe qui peut faire un ijtihad, et c'est pas n'importe qui fait qu'il y a ijma'. C'est pas parce que moi je suis d'accord avec Wael, et avec Naïm, on dit pas ijma' ici. C'est pas ijma' ça. Ijma' bain al-ulama al-mujtahidin من هذه الأمة. D'accord? De la communauté, bien sûr. Après le prophète, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur un jugement shar'i, religieux. طيب. On va décortiquer un peu. خرج بقولنا اتفاق ماذا وجود خلاف ولو من واحد. ولو من واحد فلا ينعقد مع هذا الخلاف إجماع. Quand on dit اتفاق, on parle de consensus, d'accord. Tout le monde est d'accord sur un point, un sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit qu'un seul savant, un savant parmi tous les savants de la Ummah sur la Sunna, soit en divergence avec tous les autres pour qu'il n'y ait plus de ijma. C'est bon les frères? Un seul savant qui dit non, moi je ne vois pas ça comme ça, pour moi c'est pas ça, c'est le contraire. Là on ne pourra pas dire il y a ijma, mais bien sûr on dira le jumhur, la majorité, la grande majorité, elle dit ça. Mais lui il dit ça. Il n'y a pas ijma, mais quand même l'avis de la majorité elle est forte. Le Jumhur, quand même, il a un poids. C'est pas n'importe quoi le Jumhur. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps raison. Il se peut que ce soit lui qui a raison. Après, à chacun de regarder les preuves. Ittifaq mujtahidi. Al-mujtahidin. Kharaja bi qawlina mujtahidi al-awam. Wal-muqallidun. Taïb. لا 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 العوام لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. طيب. Et quand on dit le consensus des mujtahidi et mujtahidin, de ceux qui font un effort d'ijtihad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait sortir de cette définition-là tous ceux qui n'ont pas atteint le degré de l'ijtihad. Ceux qui n'ont pas assez de science pour faire un ijtihad. Ou ceux qui ne font que suivre les ulama, qui sont derrière les ulama et qui font qu'imiter les gens de science. Mais en vérité, ils n'ont pas cette science-là qui leur permet de faire un effort de réflexion. Donc eux, même s'ils sont d'accord sur un point, on ne dit pas que c'est un ijma', d'accord ? Le ijma' shar'i, légiféré religieux, c'est celui des savants, des gens de science, qui peuvent faire un ijtihad. طيب وخرج بقولنا هذه الأمة اتفاق غيرها فلا يعتبر اتفاق النصارى ولا يعتبر اتفاق اليهود. نعم. Quand on dit de cette communauté, on fait sortir aussi les autres communautés. On prend pas en compte le consensus des Nasara ou le consensus des Yahoud ou le consensus des communistes là. Là. C'est le consensus des musulmans qui est pris en compte. Wa kharaja bi qawlina ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ittifaq fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fala yu'tabaru ijma'an ittifaq as-sahaba fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Limadha? Min haythu kawnuhu dalilan. Li'anna ad-dalil حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا إجماع استلاحا؟ لا هذه سنة هذا سنة هذا دليل مأخوذ من السنة التقريري مثلا طيب فحكمه مرفوع حكما لا نقلا للإجماع. Et quand on dit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de cette définition du coup le consensus des sahaba durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que les sahaba sont unanimes sur un point mais durant la vie durant l'existence le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas c'est un ijma, on dit c'est une sunna. Pourquoi? Parce que vous savez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est soit une parole du prophète, soit un acte du prophète, soit une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelque chose dont était, sur laquelle étaient d'accord tous les sahaba du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna. C'est une sunna, c'est pas un ijma. D'accord? C'est pour ça qu'on dit après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ala hukmin shar'i. Fa kharaja bi qawlina hadha al-hukmu madha al-adi wal-hukmu al-aqli mathalan. Fala madkhala lahu huna. Idh al-bahth fi al-ijma al-bahth fi al-dalil min adillati al-shar'. Et quand on dit sur un jugement religieux, du coup, on fait sortir de cette définition-là les jugements yani, basés sur la raison, les jugements basés sur les coutumes, les traditions, etc. D'accord ? Donc, quand on parle des ijma, on ne parle pas des jugements traditionnels, on parle des jugements religieux. Religieux, pourquoi ? Parce que là, on parle de la troisième source de législation religieuse. C'est une source de législation, les frères. Voyez, al-dalil, al-kitab, wa-sunna, wa-l-ijma'. Et on rajoute aussi, mada, al-qiyas, l'analogie, al-qiyas. Na'am. Voyez. Thumma innahum laysu ala darajatin wahida fil fadl. بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة وبحسب ما قاموا به من أعمال تجاه نبيهم ودينهم رضي الله عنهم لذلك قال الشيخ رحمه الله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وذلك هو المشهور أن المراد بالفتح صلح الحديبية، ليس هناك اتفاق، ليس هناك إجماع في هذا التفسير، لأن بعض العلماء يقولون إن الفتح فتح مكة، فتح مكة، لكن المشهور قال الشيخ الفوزان صلح الحديبية. ها؟ المشهور. طيب، وصلح الحديبية حصل في العام كم؟ السادس. أحسنت. وفتح مكة؟ لا، العاشر؟ لا، الثامن. فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، وصلح الحديبية السادس. نعم. يقول لأن سورة الفتح نزلت عقيبة صلح الحديبية. لكي جيسي الفوزان شهر الفوزان que les sahaba ne sont pas tous au même degré, au même niveau par rapport au mérite. Ils sont même en fait chacun يعني, a un mérite différent en fonction de leur يعني, comment dire, de la chronologie, hein, de leur conversion à l'islam. Sur ceux qui sont entrés en islam avant, ceux-là, ils ont plus de mérite que ceux qui sont entrés en islam après. D'accord ? Chacun en fonction des combats qu'ils ont menés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun en fonction de la hijra aussi. Donc, les muhajiroun, comme vous savez, ils ont un mérite par rapport aux ansar. Pourquoi ? Parce qu'ils ont délaissé, ils ont fait la hijra. Ils ont délaissé leur famille. Hein, leur ville natale, leur richesse, leur bien. Donc eux, ils ont une supériorité par rapport aux Ansar. Et également par rapport aux œuvres que chacun a fait vis-à-vis de son prophète et vis-à-vis de sa religion. Radiallahu anhum. Non. C'est pour ça qu'il dit le Cheikh ici. Et les gens de la Sunna, il préfère celui qui a dépensé avant al-Fath, c'est-à-dire Sulh al-Hudaybiyah. Comment on traduit Sulh, les frères? La trêve ou là? Le pacte, Sulh. Naam. En fait, c'est un pacte de paix. La conciliation, l'armistice, si vous voulez. Hein? Donc ce pacte-là, à la base, il devait garantir 10 ans de paix, 10 ans de sécurité, aucun combat. Les musulmans pouvaient aller à Mecca avec l'autorisation, bien sûr, et les kuffars qui voudraient se rendre à Médina pouvaient se rendre à Médina avec l'autorisation des musulmans. D'accord ? C'était ce qui était convenu à la base, 10 ans de paix. Donc ce pacte-là, on l'appelle Sulh al-Hudaybiyah, parce qu'il a été fait à cet endroit-là, proche de Mecca, qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Car Allah tabarak wa ta'ala, donc là, pourquoi on dit que le fath, c'est ça, et pas fath Mecca? Parce qu'on a aussi la conquête de Mecca, qu'on appelle fath Mecca. D'accord? Il dit le Cheikh, parce que Allah tabarak wa ta'ala l'a appelé ainsi dans la sourate Al-Fath, lorsqu'il a dit Inna fatahna laka fathan mubina. Certes, nous t'avons donné une victoire éclatante. Le fait, une victoire éclatante. Et dit le Cheikh, ce qui est connu et propagé, c'est que ce qui est voulu par le fait ici, c'est le pacte de Al-Hudaybiyah. Pourquoi? Parce que la sourate Al-Fath, qui a descendu ce verset-là, ou dans laquelle ce verset a été descendu, il a été descendu juste après Sulh al-Hudaybiyah. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit Al-Fawzan. Ce qui est connu, c'est que Al-Fath, c'est le pacte de Al-Hudaybiyah. Allahu ta'ala a'lam. Al-Hudaybiyah, bi'run, قرب مكة مكة وقعت عنده البيعة تحت شجرة كانت هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه على الموت أي بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت أي على قتال المشركين لأنهم ظنوا أن عثمان قد قتل نعم وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين والدليل على تفضيل هؤلاء قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه donc الحديبية c'est en fait le nom d'un puits un puits qui est proche de la Mecque et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que le pacte, al-bay'a, justement, qui a été fait, il a été fait près de ce puits, sous un arbre. Sous un arbre, d'accord? Qui était là-bas. Et ce pacte-là, il a été fait après que les polythéistes ont empêché les musulmans, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses sahaba, de rentrer dans la Mecque pour faire l'Umrah. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont envoyé Uthman, d'accord, pour dire qu'ils veulent entrer en paix, qu'ils veulent faire l'Umrah, etc., etc. Et Uthman, il a été capturé. Et puis des rumeurs ont circulé. Des rumeurs ont circulé comme quoi Uthman s'est fait assassiner. Et de là, donc, ils ont décidé, les musulmans, de rentrer dans Mecca et de combattre les mouchriquins. Et c'est pour ça que les musulmans ont commencé à prêter serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam un par un sous cet arbre-là pour justement combattre jusqu'à la mort. Et donc ce pacte-là, il a été appelé Fathan. Pourquoi? Parce qu'au final, ils n'ont pas combattu. Au final, les mouchriquins ont décidé de faire un pacte de paix et de, comme on a dit, donc 10 ans de paix et d'armistice. Non. Et donc ça a été une cause, ce pacte-là, ça a été une cause, mashallah, d'un grand bien en faveur des musulmans et d'un secours en faveur des musulmans. La preuve que ceux qui ont fait ce pacte-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que les autres, ont plus de mérite que les autres compagnons qui n'ont pas fait ce pacte-là. D'accord ? C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché. Parmi vous ne sont pas pareils, ou n'est pas pareil celui qui a dépensé avant Al-Fath, donc avant Al-Fath, c'est-à-dire Sulh Al-Hudaybiyah, et qui a combattu. Ceux-là sont à un degré plus haut que ceux qui ont dépensé après Al-Fath et qui ont combattu. La preuve, elle est claire. Celui qui a dépensé avant le fait, il est meilleur que celui qui a dépensé et combattu après. Et cela, on les appelle As-sabiqoun al-awwalun, les devanciers et les premiers parmi les muhajirin et les ansar. D'accord ? Et il dit Allah tabarak wa ta'ala à leur sujet, dans le sens rapproché, les devanciers et les premiers parmi al-muhajirin, les émigrés et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans, par excellence, na'am, Allah Jalla wa Ala les agrée et eux, ils l'agréent. Wa qala wa yuqaddimuna al-muhajirin ala al-ansar. Al-muhajirun, جمعوا مهاجر جمعوا مهاجر والمراد بهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة والهجرة لغة الترك الهجرة لغة هو الترك وشرعا هو هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا في الشرع والأنصار أي الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الأوس والخزرج الأوس والخزرج هم الأنصار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في الجلوتا رحمه الله إي أهل السنة والجماعة ils ont une préférence pour Al-Muhajirin par rapport aux Ansar. C'est-à-dire qu'ils ont la croyance que Al-Muhajirin ont plus de mérite que les Ansar. D'ailleurs, donc Al-Muhajirun, c'est le pluriel de Muhajir. D'accord ? Et quand on parle, et quand on dit Al-Muhajirun, on parle de ceux qui ont fait l'immigration de Mecca à Al-Medina. D'accord ? C'est eux Al-Muhajirun. Quant à Al-Hijra, c'est quoi Al-Hijra dans la langue arabe ? C'est Al-Tarq. L'abandon, le délaissement, délaisser quelque chose. Ça, c'est Al-Hijra. C'est pour ça qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Al-Mujahidu, ماذا ? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal-Muhajiru, man hajara al-dhunub, wal-ma'asi, wal-khataya. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Mujahid, c'est qui le Mujahid ? C'est celui qui lutte contre son âme. Al-Mujahid, c'est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Et ça, c'est le plus haut degré du djihad. Djihad nafs. Il n'y a pas plus important que djihad al-nafs. Comme ils disent les salafs, celui qui n'a pas combattu l'ennemi intérieur ne peut pas combattre l'ennemi extérieur. Al-adou, al-dakhili. Hein? Celui qui n'a pas combattu, qui n'a pas terrassé encore son ennemi intérieur, qui est son nafs, qui est lui-même en fait, sa propre personne, il ne pourra jamais combattre al-adou al-khariji, l'ennemi extérieur. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite ? وَمَنْ أَلْمُهَاجِرُ C'est qui Al-Muhajir ? مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَ وَذُنُوبُ Celui qui a délaissé les péchés, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier des Muhajirin, celui qui a délaissé les péchés. Et c'est une des formes de Hijra. Non. Mais bien sûr, ici, quand on parle des Muhajirun, dans ce contexte-là, on parle de ceux qui ont délaissé une terre de kufr pour une terre d'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, Al-Hijra, bien sûr, elle est encore légiférée. Et c'est une des plus grandes adorations pour Allah tabarak wa ta'ala. Le fait de délaisser une terre de kufr pour une terre d'islam. D'accord ? Et elle aura le jugement en fonction de l'endroit. Des fois, elle est obligatoire. Des fois, elle est recommandée. Taïeb ? Cela, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Taïeb. والأنصار الذين ناصروا الرسول. C'est qui l'Ansar? C'est ceux qui ont prêté main forte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'ont aidé et qui l'ont soutenu, hein, quand son peuple, son propre peuple, le voulait le tuer. Et ce sont Al-Aws ou Al-Khazraj, la tribu. Il y a deux tribus parmi les Ansar, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et qui est-ce qui les a appelés comme ça, Al-Ansar? C'est le prophète lui-même. صلى الله عليه وسلم والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار أن الله قدمهم في الذكر كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فبدأ الله تبارك وتعالى بمن المهاجرين وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل لتقديمهم في الذكر ولما قاموا به من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ومرضاة الله سبحانه وتعالى ونصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقهم في ذلك. Puis dit la preuve que Al-Muhajiroun sont meilleurs et ont plus de mérite que les Ansar. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala les a cités en premier. Dans la parole d'Allah Jalla wa Ala, les devanciers ainsi que les premiers parmi Al-Muhajirin et les Ansar. Donc Allah il a commencé par Al-Muhajirin. Il a dit également, Allah Jalla wa Ala a certes accepté le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des muhajirin et des ansar. Donc là aussi, il a encore commencé par al-muhajirin. Vous voyez, ceux qui l'ont suivi hein, dans un moment de difficulté. Fi sa'atil usra. Il a dit également, Allah Jalla wa Ala, le butin, il appartient aux pauvres. Parmi les Al-Muhajirin qui ont été sortis de leur terre, leur demeure, de leurs biens et qui ont cherché la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala ainsi que son agrément et qui ont secouru Allah et ont secouru son messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont les véridiques. Donc Allah il a commencé encore une fois par vanter les mérites. Par vanter les mérites des muhajirin dans la sourate Al-Hashr. Et juste après, il a vanté les mérites des Ansar lorsqu'il a dit et ceux hein, qui se trouvaient, yani Ad-Dara, c'est-à-dire Al-Medina, ou Al-Iman, et qui avaient donc, qui étaient sincères dans la foi avant eux. C'est-à-dire qui ont habité Al-Medina avant Al-Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilayhim. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Ils les aiment. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Thumma ma qala jalla wa ala wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Regardez comment Allah Jalla wa Ala, il a vanté leur mérite. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Et ils ne ressentent dans leur cœur aucune rancune, aucune jalousie de ce qu'Allah Jalla wa Ala, il a donné aux muhajirin, aux autres. Et ils préfèrent les muhajirun à eux-mêmes. Il a été rapporté que même certains. Non.
Par rapport à Hadith, ça, des compagnons. Par rapport à Hadith, des compagnons. Qui s'est privé lui-même de sa famille pour
il y a plein de récits. Il y en a même certains qui. Ceux qui étaient mariés avec deux femmes, hein, parmi les Ansar, ils disaient. Al-Muhajir, il lui disait si tu veux, je divorce. L'une de mes deux femmes, et après sa période de viduité, tu pourras te marier avec elle. Imagine-toi, mon frère. Si tu veux, je divorce une de mes deux femmes. Attends un petit peu, patiente, sbir chouya. Elle termine sa idda, sa période de viduité. Et après, inshallah, alhamdulillah. Tazawaj bien. Imagine-toi, les frères, jusqu'où ces gens-là ils sont allés. l'amour yani des croyants, l'amour des frères en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces versets là nous montrent donc le mérite des muhajirines et des ansar et des muhajirines sur les ansar. Vous voyez, du fait qu'Allah Jalla wa Ala les a cités en premier, et aussi du fait que ce qu'ils ont fait les muhajirines par rapport au fait qu'ils ont délaissé leur terre, ils ont délaissé leurs biens, leur famille, leurs enfants, et tout ça pour le visage d'Allah tabarak wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour secourir la religion d'Allah, pour secourir son messager sallallahu alayhi wa sallam, hein? Et par rapport à la véracité, comme Allah les a appelés, Ulaika hum as-sadiqun. Imagine-toi, mon frère. Allah, il a l'a validé ici. Il a validé leurs actes. Ulaika hum as-sadiqun. Demande à Allah qu'on fasse partie des sadiqin. Wa qala wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badr wa kanu 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. أهل بدر كما جاء في الصحيحين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وبدر هو قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة حصلت عندها الوقعة التي أعز الله بها الإسلام وسمي يوم بدر يوم الفرقان. Donc il dit par la suite, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, les gens de la Sunna, ils ont pour credo, pour croyance, qu'Allah Jalla wa Ala a dit aux gens de Badr, aux gens qui ont participé à la bataille de Badr, et ils étaient dit 310 et quelques. Alors que les mushrikoun, ils étaient combien, les frères? 3 fois plus. Combien? Non, quand même pas. 3000? Là, 3 fois plus. Non, à peu près 1000. 3 fois plus que les musulmans. D'accord? Ici, il dit 318. Donc, bid'a, c'est un terme pour dire et quelques. Ça va de combien à combien, bid'a? Hein? Mais allez, vas-y. 314 à 319. Non, c'est ça. Donc quand on dit Thalatha mi'a, c'est-à-dire ça va de 314 à 319. Parce que bid'a, c'est un terme pour exprimer une certaine fourchette. Et cette fourchette, c'est quoi? De 3 à 9. Et de 1 à 3, comment on dit?
Nafar.
Allahu a'lam. T'inquiète? انا عرفت نيف نيف نعم نيف نيف دو 1 à 3 تقول مثلا 300 والنيف 300 يعني 301 302 303 mais pas plus alors que 300 وبدعه 304 305 306 jusqu'à 309 d'accord. Donc il a dit à Allah Jalla wa Ala à ces gens-là, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Comme cela a été rapporté dans les deux authentiques, dans l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Ceux qui ont étudié Nawaqid de l'Islam connaissent son histoire à lui. Hein? Hatib. Vilain. Non, mais il connaît son histoire. Celui qui a trahi le prophète, celui qui a transmis le message, ou qui a voulu transmettre le message aux gens de Mecca, comme quoi les musulmans allaient venir les attaquer. Mais alhamdoulilah, il a révélé à son messager avant que le message il atteigne la Mecque. Et ils ont intercepté le message. Hein? Mais est-ce qu'il a commis un acte qui fait sortir de l'islam à ce moment-là? Hein? Ça dépend de l'intention. Ça dépend de l'intention. Lui, son intention, c'était pas de faire gagner le kufr sur l'islam. Il avait une autre intention. C'était une intention basée sur la dunya. Une intention basée sur la dunya. Tout ça pour dire que, et ça je conseille à tous les frères d'étudier Nawaqid al-Islam, ce livre-là, pour pas justement tomber dans le takfir, dans le fait de rendre mécréant un tel ou la un tel, ou le président un tel, ou le roi un tel, ou le dirigeant un tel, ou de rendre mécréant la terre entière, comme le font les Khawarij. Donc quand tu lis cette histoire-là, subhanallah, celui qui a patience, il a dit, c'est un kafir, comment ? C'est un acte de trahison. Trahison, yani, qui met en péril la sécurité des musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Quand ils ont amené Hatib devant lui, et que les sahaba voulaient le tuer, ils voulaient trancher la tête, il a dit, laissez-le. Il a demandé à Hatib, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Il a interrogé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu as un acte qui peut être de l'ordre du kufr, mais qui peut aussi être autre chose que du kufr, un péché majeur, certes, mais qui n'a pas atteint le degré de kufr. Parce que ça va dépendre de l'intention de la personne. C'est pour ça qu'il a posé la question, le prophète. S'il avait répondu, je l'ai fait parce que je n'aime pas l'islam, parce que je déteste l'islam, parce que... Naam, normal. C'est un apostat, lui. Mais il a dit, non, c'est pas pour ça. Il a dit, mon cœur, il est empli de foi. J'aime l'islam. J'aime l'islam, mais je l'ai fait pour telle et telle raison de la dunya. Et après, ils l'ont laissé, alhamdoulilah. Donc, ceux qui veulent yani, connaître l'histoire, ils retournent au hadith, inshallah, de Hatib ibn Abi Balta'a. Donc Badr, Badr c'est un lieu connu qui se trouve à 4 jours de voyage de El-Medina. Arba marahil. Donc une marhala, les ulama disent c'est une distance d'un jour de voyage. Une marhala. D'accord ? Donc 4 marahil, c'est 4 jours à peu près de voyage. Et donc la bataille de Badr, c'est une des causes de la puissance de l'islam. C'est là que l'islam il a commencé à se fortifier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle a été aussi appelée ce jour-là, il a été appelé le jour de Al-Furqan. Al-Furqan huwa kullu ma furriqa bihi bayna al-haqq wal-batil. Al-Furqan, c'est un nom que tu vas utiliser pour exprimer tout ce qui va servir à distinguer entre le vrai et le faux. Entre le vrai et le faux. C'est pour ça qu'on dit que le Coran Furqan. Parce que le Coran il vient et il distingue entre le vrai et le faux. Non. وقوله وكانوا 319 هكذا ورد عددهم في صحيح البخاري وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. طيب. Puis lorsqu'il dit, et ils étaient 310 et quelques, 310 et quelques. Donc ce nombre-là, il a été rapporté dans l'authentique de Al-Bukhari. Na'am. Dans le hadith numéro 3957. Et dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Allah il leur dit, faites les péchés, c'est pas grave, mais allez. Faites du shirk, vous irez quand même au paradis ? Non, ça ne veut pas dire ça. Donc on verra l'explication de cette parole-là. Ici, mentionnée par Ibn al-Qayyim, rahimahullah. On a bientôt fini, les frères, le livre. Alhamdulillah. Il doit rester combien? 5-6 cours. Hein? Combien de temps on est dessus? Un an ou là? Un an et demi?
Combien de temps, frère?
Les environs.
Un an et demi? Non.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه أي معنى قول الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم قال فالذين ظنوا في ذلك والله تعالى أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة النصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال انتهى كلامه وكتجي الإمام Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, par rapport à la parole d'Allah Jalla, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Il dit cette parole-là, il y a beaucoup de gens à qui elle pose problème au niveau de sa signification. Donc il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, la chose à laquelle nous pensons, Wallahu ta'ala a'lam, est que cette parole-là, faites ce que vous voulez, on vous a pardonné, elle est dirigée vers des gens à propos desquels Allah Jalla wa Ala sait qu'ils ne vont jamais sortir de l'islam jusqu'à leur mort. Et Allah, il sait l'avenir. Il sait comment la personne ou chaque individu, comment il va mourir et comment il va terminer sa vie. Donc Allah Jalla wa Ala, il sait que tous ceux qui ont combattu durant la bataille de Badr, eh bien, vont tous mourir sur la tawhid, sur l'islam, sur l'iman, et qui ne vont jamais délaisser et sortir de leur religion. Au contraire, ils vont mourir sur l'islam, même si il se peut qu'ils fassent des péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des péchés. Il se peut qu'ils en fassent comme les autres, comme ceux qui n'ont pas combattu durant la bataille de Badr. Voyez ? Mais malgré ça, ils ne mourront pas sur Al-Kufr. Allah, il sait qu'ils vont tous mourir sur l'islam. D'accord ? Et donc Allah Jalla wa Ala, même s'ils font des péchés, eh bien, il les ramènera à lui, il les guidera jusqu'à ce qu'ils délaissent les péchés qu'ils font. Et Allah Jalla wa Ala va les guider vers le repentir sincère, vers la demande de pardon et vers les bonnes actions, les hassanat, qui font que les péchés s'effacent et disparaissent. Voyez ? Et donc on a quand même ici pour les gens de Badr une chose qui est un privilège quand même pour les gens de Badr par rapport aux autres qui n'ont pas fait la bataille de Badr. Ce privilège là c'est quoi ? C'est qu'Allah Jalla wa Ala, il va les guider. Il va les guider vers le pardon, vers la tauba sincère. Voyez ? Vers les hassanat, les bonnes actions qui effacent les péchés. Naam. Mais cela n'exclut pas non plus que ces gens-là vont faire des causes qui font que cela efface les péchés qu'ils ont faits, des causes qui font qu'Allah Jalla wa Ala va les pardonner. Et Allah sait tout cela, bien sûr, avant qu'elles n'arrivent. Ça ne veut pas dire, surtout, cela ne veut pas dire qu'ils ont le droit de délaisser les obligations d'Allah. Hein? En pensant que ça y est, Allah Jalla wa Ala, il a validé, il leur a dit, ça y est, je vous ai pardonné, donc c'est bon. Faites ce que vous voulez, journée porte ouverte. Là. Vous voyez ? Parce que si cela était vrai, s'ils pouvaient après ça faire ce qu'ils voulaient, ils n'auraient pas continué à prier, ils n'auraient pas continué à faire le pèlerinage, à verser la zakat, à combattre. Ils ont continué à combattre le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc le fait de croire que ces gens-là, après cette parole-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, est bien sûr totalement impossible. Totalement impossible. Taïeb. Falhamdulillah, كما سبق عقيدة كل السلفي عقيدة أهل سنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء وإنزالهم في منازلهم التي أنزلهم الشرع المطهر من كتاب والسنة. فإذا قيل بعضهم أفضل من بعض لا يفهم منه الطعن في الآخرين ولا يفهم منه التنقص بالآخرين بل هكذا أنزل الله جل وعلا الصالحين منازلهم وفضل بعضهم على بعض وكون هذا فاضل وذاك مفضول كما أسلفت لا يفهم منه الطعن في المفضول وتناقص بحق المفضول وإنما كلهم له من الفضل ما لا يدركه من جاء بعدهم طيب انتبهوا إلى هذا حتى لا تقعوا في منهج الشيعة أو الروافض أو الخوارج أو النواصب لذلك قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الرسول رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام فمن دون الرسول كذلك فضل الله بعضهم على بعض Donc pour conclure inshallah ta'ala comme on a vu la croyance des gens de la sunna la croyance des salafis c'est l'amour de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans exception et le fait de leur donner le mérite qu'ils méritent et de leur accorder la valeur qu'ils méritent aynam le fait de dire que Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali sont meilleurs que les autres. Le fait de dire que les Muhajiroun sont meilleurs que les Ansar et que ceux qui ont fait le pacte avant Sulh al-Hudaybiyah sont mieux que ceux qui sont venus après et qui ont dépensé après. Ça ne veut pas dire qu'on doit critiquer les autres ou rabaisser les autres ou mépriser les autres ou insulter les autres comme le font les Shia. والخوارج النواصب لا au contraire on doit faire ce que Allah Jalla wa Ala il a fait c'est-à-dire les aimer tous mais avoir des reconnaître le mérite de certains par rapport à d'autres خلاص طيب c'est pas parce que l'un est meilleur que l'autre ou l'un a plus de mérite que l'autre qu'on doit rabaisser le deuxième Allah Jalla wa Ala, il a des préférences parmi les messagers. Qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa Ala? Tilka ar-rusul, ces messagers, faddalna, on a privilégié certains sur d'autres. Minhum man kallama Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. C'est clair. Allah il a privilégié Moussa par rapport au fait qu'Allah il a parlé. Avec Moussa, sans intermédiaire. La privilégiée de qui il parle quand il dit « Wa rafa'a ba'dahum darajat » Il parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est meilleur en degré, plus haut en degré que les autres. Ou Isa, il lui a donné « al-bayyinat » Il faisait revivre les morts par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit qu'Allah, il a donné des privilèges à certains prophètes sur d'autres. Et bien ceux qui ne sont pas prophètes, c'est pareil. Les sahaba aussi, Allah Jalla wa Ala, il a privilégié certains sahaba par rapport à d'autres, au niveau des mérites, au niveau des bonnes œuvres, etc. etc. C'est clair, les frères? Alhamdulillah. Wa l'ilmu inda Allah, wa sallu wa sallimu ala nabiyikum Muhammad, sahib al-wajh al-anwar, wal-jabin al-azhar, radallahumma an al-arba'ati al-khulafa, الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين